les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
L'histoire générale du cinéma, écrite par Georges Sadoul, dont le premier tome parut en 1946, fut pour toute une génération de passionnés de cinéma la référence du genre, succédant à l'histoire du cinéma universel de Maurice Bardèche et Robert Brasillach. Comme le critique Jean-Louis Bory le soulignait dans un numéro hommage des Lettres françaises, paru en octobre 1967, au lendemain de la disparition de Sadoul, il s'agissait là d'un véritable changement de Bible, ce qui n'était pas rien. Sadoul fut l'un des premiers à distinguer l'activité d'historien du cinéma de celle de critique, métier qu'il pratiquait par ailleurs et pour lequel il revendiquait une subjectivité totale. Né en 1904, disparu le 13 octobre 1967, il fut aussi signataire du deuxième manifeste surréaliste en 1930, résistant pendant la guerre aux côtés de son ami indéfectible, Aragon, et membre du Parti communiste auquel il avait adhéré en 1927. Un an après sa mort, France Culture lui rendait hommage dans une émission qui donnait la parole à ses proches et amis, à sa fille adoptive Yvonne Babi, à des cinéastes parmi lesquels Jean Renoir, Alain Resnais, Jean-Luc Godard et Miloš Forman, aux critiques Georges Charansol ou encore à Henri Langlois. Un historien du cinéma, Georges Sadoul, une émission de Henri Béard diffusée pour la première fois le 21 octobre 1968.
Un historien du cinéma, Georges Sadoul, par Henri Béard. Il y a un peu plus d'un an, le 13 octobre 1967, l'historien du cinéma, critique aussi de cinéma, Georges Sadoul, meurt à Paris. Veuf de Jacqueline Cartier-Bresson, Georges Sadoul se remarie en 1948 avec Ruta, compagnon de résistance. Et dès lors, Georges devient, pour tous ceux qui exercent une profession touchant au cinéma, non plus un visage, mais trois visages. Le sien, celui de Ruta, et celui aussi de sa fille, Yvonne Babi, actuellement critique de cinéma au journal Le Monde. Georges Sadoul fait ses débuts de critique en 1935. Il collabore à Regard, L'Humanité, Les Lettres françaises, L'Écran français, Les Cahiers du cinéma. Professeur d'histoire du cinéma à l'Institut des hautes études cinématographiques, l'IDEC, depuis sa fondation en 1944, il collabore aussi à l'Institut de filmologie. Georges Sadoul publie, outre son histoire générale du cinéma, 5 volumes déjà parus, 4 en préparation, une quinzaine d'ouvrages toujours sur le cinéma, dont un sur Georges Méliès, un sur Louis Lumière, un sur Chaplin. Il est en outre l'auteur d'un scénario de court-métrage, La scène a rencontré Paris. Georges Sadoul est né le 4 février 1904 à Nancy. Il s'installera plus tard à Raon-l'Étape, toujours dans les Vosges, et demeurera tout au long de sa vie profondément lorrain. C'est d'ailleurs ainsi qu'il se présentera toujours aux yeux de sa fille, Yvonne Babi.
Il disait qu'il avait le caractère d'un montagnard, il parlait très peu, il avait une pipe, il était un peu taciturne comme peuvent l'être les lorrains, non ? Et à cause de ça, on avait toujours des blagues entre nous, parce que moi je suis plus... citadine, plus bavarde, non?
Et un jour, Yvonne lui a demandé de bien vouloir définir pour elle le caractère du Lorrain.
Oh, c'est difficile. C'est un montagnard. C'est-à-dire qu'il est assez renfermé. Il parle pas beaucoup. Il y a une histoire sur les gens de mon pays qui étaient les flotteurs, et on raconte que des flotteurs un jour sont partis jusqu'à Metz, et qu'en sortant de Metz... Il sortait d'une auberge, il y a un flotteur qui a dit à l'autre, la soupe était bonne. Et puis ils se sont tus, ils sont partis à pied jusqu'à Raon-l'Étape, ils ont mis au moins 3 ou 4 jours en faisant 40 km par jour. Et quand ils sont arrivés en vue de Raon-l'Étape, L'autre flotteur a dit à l'autre, ben vraiment, elle n'était pas mauvaise cette soupe. C'est-à-dire qu'en 4 jours, ils n'avaient échangé que 2 phrases. Et les Vosgiens sont un peu comme ça. Ils sont assez rudes. Ceci dit, quand ils se donnent, ils sont très dévoués et au fond très hospitaliers. Mais déjà arrivé, au cours de grandes renées en montagne, d'être saisi par un orage, on frappait à la porte pour s'abriter dans une ferme. Bah, c'est tout juste si on ne vous mettait pas à la porte. T'es obligé de forcer la porte. Mais une fois qu'on avait forcé la porte, on était les hôtes et vraiment, ils se mettaient en 4 pour vous. Ils sont merveilleusement hospitaliers, extrêmement gentils. Seulement, ils sont rudes. Ils sont rudes. Et pour engager leur conversation avec eux, ben, faut attendre. Faut attendre un petit moment.
Georges Sadoul, autour de cet homme pour qui le mot d'historien de cinéma paraît avoir été créé, et aussi autour de sa fille, Yvonne Babi, se sont rassemblés un certain nombre d'amis. Non pas pour lui rendre un hommage, mais, comme cela, pour parler de lui, parce qu'il l'aime bien. Certains ont produit des témoignages écrits, d'autres sont venus autour de notre micro. Ceux qui ont écrit, Louis Aragon, Elsa Triolet, Louis Malle, Jacques-Daniel Valcroz, Anne-Philippe, Claude Mauriac. Se sont réunis autour de notre micro Jean Renoir.
Je ne l'ai pas connu intimement, mais je l'ai connu. Et nos trop courtes entrevues m'ont fait aimer l'homme. C'était un homme parfaitement décent. C'était un homme dont les opinions étaient toujours, essayaient toujours d'être basées sur les faits et non pas sur ses emballements personnels. Bien sûr, ça ne l'empêchait pas d'avoir son goût, ses opinions, mais il me semble que si j'avais une épithète à appliquer à Sadoul, j'aimerais utiliser l'épithète juste. Je dirais Sadoul le juste.
Alain Resnais, l'auteur, entre autres, d'Hiroshima mon amour, de Muriel, de l'année dernière à Marienbad.
J'ai trop peu rencontré Georges Sadoul, je le regrette évidemment. Nous nous rencontrions, je pense, 2 fois par an à peu près, au déjeuner du Vigo. Et là, je crois que nous nous amusions beaucoup ensemble parce que j'aimais beaucoup le rire de Sadoul.
René Clair, de l'Académie française.
J'ai toujours vu Georges rire. Et c'était d'autant plus singulier qu'il est un historien du cinéma extrêmement sérieux à tout point de vue, aussi bien politique, artistique, économique. Quand on parlait avec lui, il était toujours pris de crises de rire qui manifestaient je ne sais quoi, probablement simplement un goût de la vie ou peut-être la chaleur de l'amitié.
Michel Cournot, ancien critique de cinéma au Nouvel Observateur, devenu cinéaste avec son premier film « Les Gauloises Bleues ».
Je suppose que dans cette émission, je vais représenter le garçon qui connaît le moins Georges Sadoul. Je suis critique de cinéma depuis très peu de temps, mais j'avais beaucoup lu Sadoul avant de le rencontrer comme collègue. On ne voyait que lui, en somme, dans une réunion, parce qu'il était complètement normal, détendu, pas cuistre, naturel. On voyait qu'il avait une très grande culture et une très grande humanité, et qu'il était beaucoup plus qu'un critique de cinéma.
Jean-Luc Godard.
C'était quelqu'un d'assez exemplaire, je crois, de par son travail et l'espèce de travail immense, justement, qu'il avait entrepris, qu'il n'a pas pu mener à bout.
Georges Charansol, président d'honneur de l'Association des critiques de cinéma et de télévision.
Il s'intéressait vivement à tout le nouveau cinéma. Quant au cinéma étranger, il n'avait pas hésité à faire de longs séjours dans les pays les plus lointains. Il s'était rendu au Mexique, il s'était rendu en Inde, il s'était rendu en Égypte et dans bien d'autres pays encore, afin de voir des films qui ne passeront jamais sur les écrans européens. Et c'est grâce à cela que sa fameuse histoire générale du cinéma est un monument devant lequel nous nous inclinons tous.
Précisément, on accusait souvent Georges Sadoul de préférer les films de l'Europe de l'Est, peut-être, disait-on, pour des raisons politiques. Agnès Varda.
C'est vrai, et on le lui reprochait, ce qui est très injuste et très inutile. De toute façon, il avait le droit de préférer les films de certains endroits que d'autres. Mais il faut surtout voir dans l'intérêt que Sadoul portait aux films venant de l'Est, un vrai intérêt pour les films. Sadoul voyait pratiquement tous les films qui se faisaient partout. Et dans le cas des films venant de l'Est, il a été un des premiers à voir tous les films tchécoslovaques, tous les films yougoslaves, tous les films russes, drôles ou pas drôles. Et il pressentait et il savait qu'il y aurait un renouveau formel dans le cinéma de l'Est.
Un témoignage qui nous vient de l'Est, Miloš Forman, cinéaste tchèque, auteur, entre autres, des Amours d'une blonde.
Quand nous sommes commencés, comme on dit, la nouvelle vague tchécoslovaque en 1962-63, nos films ont reçu le grand support, le grand soutien de jeunes critiques tchécoslovaques. Et toutes ces jeunes critiques tchécoslovaques ont étudié à l'école l'histoire et la critique de cinéma sous l'influence des gens comme Georges Sadoul ou Hugo Casiraghi, les gens comme ça.
Cet intérêt pour le cinéma international ne pouvait qu'amener Georges Sadoul à collaborer avec l'UNESCO. Monsieur Enrico Fulchignoni, vous êtes chef de la section de création artistique à l'UNESCO.
Mon premier souvenir de Sadoul remonte à 1947. J'avais eu entre les mains son volume sur l'histoire du cinéma italien et ayant remarqué que sur 10 noms italiens, il y en avait 8 qui étaient massacrés, chose qui se passe assez souvent dans les textes et dans les journaux français, je lui ai écrit une lettre amusante comme ça en disant qu'au nom du comité pour la défense de l'orthographe italien, Rossellini et moi-même, nous le prions de vouloir rectifier un certain nombre de fautes. Et à cette lettre, comme ça, drôle, qui ne voulait être rien d'autre que ça, il a répondu par une lettre extrêmement gentille en nous invitant à nous rencontrer. Et c'est à partir de ce moment-là que s'est nouée une amitié qui a duré 20 ans.
Henri Langlois, fondateur de la Cinémathèque française, qui, lui, s'est particulièrement attaché à Georges Sadoul, historien.
C'était un homme extraordinaire. Il travaillait sur documents. Il n'a jamais donné de jugement personnel. Il a photographié le jugement de tout le monde dans son histoire du cinéma. Il donne une espèce de résumé qui est tout à fait différent. C'est le contraire, c'est l'objectivité absolue. Enfin, c'est un grand monsieur.
Enfin, Jean Viener.
J'aimais tendrement Sadoul. Et si vous permettez, plutôt que de parler avec des mots plus ou moins exacts, que l'émotion rendrait peut-être imprécis, je préfère me mettre au piano et dire bonjour à Georges de cette manière-là.
Yvonne Babi, c'est Georges Sadoul qui vous a donné le goût du cinéma.
C'est par lui que j'ai connu aussi le cinéma, enfin je veux dire d'une façon plus théorique ou plus historique, puisqu'il m'a même fait taper, ce que j'ai fait très mal à l'époque, un de ses manuscrits de l'histoire générale du cinéma. Il était merveilleux avec les enfants, et ça c'est quelque chose qu'on a dit de lui. Hélas, après sa mort, on a parlé des livres qu'il avait écrits pour les enfants. On a dit qu'il avait dirigé Mon camarade à un certain moment, et c'est vrai qu'il trouvait tout de suite un moyen de communication très exceptionnel avec les enfants. Il me racontait des histoires, on chantait des chansons, et il vous donnait le sentiment d'être une grande personne, et en même temps il trouvait un langage très naturel pour les enfants. Vous savez, mon père vit toujours. J'aime beaucoup mon père, mais Georges était vraiment absolument un autre père et ça s'est fait tout de suite et jusqu'à la fin.
Georges Charansol, Georges Sadoul occupait, disons, des fonctions officielles dans cette association des critiques de cinéma et de télévision.
Georges Sadoul était le président de cette association qui réunit tous les critiques et informateurs de cinéma et de télévision. Et à la tête de cette association, il a fait un très beau travail. Ses camarades l'avaient appelé non seulement en raison de ses qualités, mais aussi à cause de l'admiration qu'il lui portait, à cause de ses très grandes qualités de gentillesse et de l'autorité souriante qu'il savait manifester. J'ai eu à maintes reprises l'occasion de le rencontrer depuis une vingtaine d'années, et ma dernière rencontre était particulièrement émouvante. En effet, cet été, alors que je le savais déjà très malade, j'ai eu la surprise de le voir assis dans un fauteuil dans une salle de cinéma de la rive droite. Et je lui dis, ça me fait plaisir de vous voir là, cela montre que votre santé est meilleure. Et il me dit, mais il faut faire son métier jusqu'au bout. J'ai eu la plus grande difficulté à monter les escaliers, à gagner ma place. Mais tout de même, je veux rester fidèle jusqu'à la fin à cet art auquel j'ai consacré toute mon existence.
Quelques jours après la mort de Georges Sadoul, Louis Aragon écrivait « Mardi dernier, la dernière fois que je t'ai vu, on aurait bien juré déjà qu'on ne parlait plus pour toi, mais pour Ruta, si miraculeusement calme. Et elle m'a dit « Il entend tout, il comprend tout. Pourtant, tu étais déjà coupé du monde. » Tu ne pouvais ni t'exprimer, ni plus bouger, rien que tes mains. Je te parlais comme au fond d'un abîme, et puis tout d'un coup, tu tournais sur moi, sur mes lèvres brûlantes, un grand regard bleu, profond et triste comme la mer, dont à peine tu pouvais imiter le murmure lointain. Tu m'entendais. Un nom dit modifiait l'œil. Cela était extraordinaire et terrible, et voilà que je me suis mise à penser que peut-être, peut-être aujourd'hui encore, tu m'entends. Henri Langlois, vous qui êtes fondateur de la Cinémathèque, vous me disiez que l'action de Georges Sadoul et votre action à la Cinémathèque étaient parallèles.
La Cinémathèque, quand elle s'est fondée en 1935, et Sadoul commençait aussi ses recherches sur l'histoire du cinéma, on est parti du même pied, quoi. Une chose qu'on aimait beaucoup, le cinéma muet, mais au fond le cinéma muet de la fin, le cinéma parlant aussi, bien entendu. Et puis, il a fallu défricher une terre vierge. Alors, Sadoul s'y est attaqué en historien, nous nous sommes attaqués en collectionneur. Et puis, c'était un homme généreux, puis c'était un homme qui ne pensait pas à lui. Vous comprenez, quand il a fait son histoire du cinéma, et qu'il est allé chez les Lumières, ben, il a pensé tout de suite à la Cinémathèque. Nous étions très mal à l'époque, moi et Sadoul. Sur différents plans, nous étions en désaccord complet, en particulier sur la Cinémathèque. Ça n'a pas empêché de ramener 2000 négatifs ou 4000 négatifs Lumières, je ne me rappelle pas du chiffre exact, plus toutes les collections qui actuellement permettront un jour d'avoir une salle du cinéma Lumière au musée du cinéma. C'est l'inverse du monsieur égoïste, car il aurait très bien pu se faire donner tout ça par Lumière, pour lui-même.
Alain Resnais.
J'ai rencontré pour la première fois, je pense, Georges Sadoul en 1950, car il avait souhaité faire avec moi un film, je crois me souvenir, mais je ne suis pas très sûr, mais je crois bien que c'était sur la peinture italienne et sur le peintre Francesco del Cossa. J'étais assistant monteur, en effet, à cette époque, et j'avais tourné deux films de peinture qui devaient être Van Gogh et Guernica. Le projet n'a d'ailleurs pas abouti, mais enfin, je me souviens d'un entretien extrêmement chaleureux, cordial, dans lequel nous avons évoqué beaucoup de personnages mythiques avec un égal plaisir. Je pense surtout aux vampires de Feuillade et aux Fantomas de Souvestre et Alain. Et c'est Georges Sadoul qui m'a dit « Oui, vous aimez beaucoup Fantomas, mais vous savez que c'est tout de même très influencé par Zola. » Et je lui ai dit « Mais je n'ai jamais lu Zola. » Il m'a dit « Mais vous avez tort, parce que je crois que si vous mettiez à lire Zola, eh ben, ça vous passionnerait de la même manière. » Alors j'ai suivi son conseil et je lui dois en tout cas la découverte d'un écrivain pour lequel j'éprouve la plus forte des passions.
Thank you.
Henri Langlois, comment était Georges Sadoul au physique?
Il avait l'air calme. C'est difficile, parce que moi, physiquement, je m'en fous du physique. Moi, ce qui compte, c'est moralement. Alors, physiquement, vous savez... Quoi? Moralement, Sadoul était d'abord le courage, était d'abord la conscience, était capable, quand il se trompait, de dire « je me suis trompé », ce que très peu de gens font, était capable de réviser son opinion sur les choses. Enfin, c'était un grand monsieur.
Monsieur Enrico Fulchignoni.
Il donnait l'impression d'une extraordinaire gentillesse. Nous étions souvent intimidés par la dimension de son savoir, par la renommée qu'il avait. Et chaque fois, il démentait cette sorte de mythe par un trait d'une humanité et d'une courtoisie absolument touchant.
Yvonne Babi, Georges Sadoul, pensait-il souvent à la Lorraine?
Oui, beaucoup. Il parlait beaucoup des Vosges. Il a, dans sa maison familiale à Raon-l'Étape, aménagé lui-même une grange en mettant les boiseries du bureau de son père et où il a une bibliothèque. Et c'est un endroit qu'il aime beaucoup, qu'il aimait beaucoup et où il a travaillé avant d'avoir cette petite maison près de Paris. Il aimait beaucoup aller dans cette grange à Raon et partir très tôt le matin à pied et faire des grandes promenades dans la forêt. Vous savez, comme ça, j'allais le voir à Raon et puis il m'emmenait pour ses excursions. Il me disait, je vais vous montrer mon pays parce que je suis un montagnard et connaissait tous les endroits et tous les noms des plantes et des arbres. Et il aimait aussi beaucoup aller aux champignons qu'il connaissait très très bien. Il faisait des petits colliers de champignons et il emportait toujours un, vous savez, une sorte de foulard comme ça en coton comme emportent les paysans. Il nouait ce foulard comme un petit baluchon et il mettait des champignons ou sinon des cailloux curieux, des pierres, des morceaux de bois. Il sculptait le bois lui-même. Il était extrêmement habile de ses doigts, non, et aussi très manuel en même temps qu'intellectuel. Et, vous savez, pendant la guerre, il a lui-même sculpté un jeu d'échecs qui est très très beau et qu'on garde toujours. Tout ça aussi le rendait très proche de l'enfance.
Monsieur Enrico Fulchignoni, comment, dans le cadre de l'UNESCO, Georges Sadoul se comportait-il au cours de débats ou de tables rondes?
Avant tout, une extraordinaire humilité qui était en contraste avec la masse de son savoir. Ensuite, il était curieux de tout ce qui touchait au cinéma et aux arts en général, et cette curiosité lui donnait une impression d'extraordinaire jeunesse. Il était toujours le plus jeune parmi les jeunes participants, et il était toujours à l'affût de renseignements, de nouvelles, de données, et même d'éléments parfois arides comme les chiffres statistiques qui s'animaient dans son cœur parce que derrière les chiffres, il savait bien qu'il y avait des hommes. Il s'intéressa à des films, à des œuvres et à des productions de pays parfois incompréhensibles et il s'efforçait de transformer cette curiosité en contact plus direct avec ces civilisations. Voyez-vous, chez nous à l'UNESCO, il disait souvent, voilà, à Cannes ou à Venise, au festival, on a toujours le même refrain, tel film indien est passé, tel film indonésien est passé, tel film égyptien est passé, c'est intéressant, il y a des bonnes images, mais il est un peu long, un peu incompréhensible, une psychologie peut-être désuète. Pas du tout, disait-il, il ne s'agit pas de psychologie désuète, il ne s'agit pas de lenteur, c'est des hommes qui vivent dans un autre contexte, donc il faut les comprendre. Et pour comprendre, il faut s'adresser avec humilité, il faut tâcher de les intégrer à d'autres coordonnées qui sont celles de notre civilisation. Et tout cet effort était fait toujours avec une très grande patience, avec un très grand désir de comprendre. Et ce qui l'avait poussé dans les derniers temps de sa vie à s'éloigner de plus en plus à des formes qui étaient des formes déjà structurées pour regarder avec amour les formes qui étaient en voie de construction, des pays en voie de développement, des cinémas peu connus, des cinémas encore informes, mais qui cherchaient leur voie.
Jean-Luc Godard, comment, aussi bien en tant que cinéphile qu'en tant que cinéaste, comment lisiez-vous les critiques de Georges Sadoul?
Je sais pas, moi je lisais plutôt comme les critiques d'un oncle à son neveu, par exemple.
Nous avons retrouvé dans les archives de l'ORTF la voix de Georges Sadoul, la voix nette, la voix ferme, la voix claire, humaine et lorraine de Georges Sadoul, disant sa profession de foi de critique.
Je ne crois pas que je vais attaquer mes confrères, parce que même comme critique, j'aime pas faire les papiers d'esquintage. C'est très facile, c'est très amusant, on s'imagine en tout cas être très brillant, mais j'aime mieux en général parler des choses que j'aime, et je parlerai donc un peu de la critique, parce que j'aime beaucoup ça. Pourquoi faisons-nous de la critique? Eh bien, moi, je pense qu'il faut s'adresser d'abord aux lecteurs et aux spectateurs. Il faut tout de même penser que le lecteur demande un certain nombre de choses. L'autre jour, un micro qui n'était pas celui-ci, mais qui était un micro de la RTF, en discutant avec un de mes confrères, nous parlions d'un film récent. J'ai résumé en trois mots le sujet. Et mon confrère, que j'estime d'ailleurs beaucoup, m'a dit « Mais pourquoi résumer le sujet? Ça n'intéresse personne. » J'ai dit « Je m'excuse, mais ça intéresse peut-être les 4 ou 5 millions d'éditeurs que nous sommes supposés avoir, qui ne connaissent pas ce film, qui n'ont jamais vu ce film, et qui veulent tout de même un petit peu savoir ce que l'homme raconte, ce que le cinéaste raconte dans ce film. » Maintenant, ensuite viendront d'autres considérations. Je dis que la critique est aussi un art terriblement difficile, et la preuve en est, c'est qu'on se trompe tout le temps. Tout le temps. C'est pour moi que je le dis d'ailleurs, en général. On se trompe tout le temps. On n'a pas la même impression d'un film après l'avoir vu immédiatement. Il arrive que 8 jours, 15 jours, 1 an après, on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Il ne reste absolument à ce moment-là qu'à le dire, si on a encore le moyen de le dire, parce que ce n'est pas toujours très facile, étant donné qu'on est obligé de tenir une rubrique. Dire qu'il faut que la critique s'accorde au public ne veut pas dire que la critique s'accorde toujours avec le public, bien au contraire. Je pense que la critique doit avoir un certain rôle de combattre certaines opinions du public, de lutter contre elles, mais qu'elle a tout de même besoin de connaître l'opinion du public avant de pouvoir critiquer un film. Je crois que ces derniers temps, un des torts de la critique française a été de passer pour les mêmes personnes, pour les mêmes hommes, il ne serait pas difficile de citer les noms, de l'excès d'honneur absolument délirant à l'indignité la plus totale, les condamnant, les jetant aux gémonies, et de dire... telle année que tel réalisateur français ou étranger a du génie, et la dernière chose, qu'on s'était complètement trompé, qu'il n'a jamais fait que de la crotte, et que ça ne vaut absolument plus la peine de parler de cet homme. Une dernière chose, c'est que je crois que les critiques doivent avoir le goût de la découverte géographique et de la découverte des auteurs. C'est tout ce que j'avais à dire.
Jean-Luc Godard, l'intérêt de Georges Sadoul pour les jeunes cinéastes?
Pour les jeunes cinéastes, disons plutôt pour le jeune cinéma, et le jeune cinéma, c'est-à-dire le cinéma qui vient de naître et qui est un cinéma de contestation par rapport à un cinéma sclérosé, et que ça soit, et même quand les films étaient mauvais, enfin, il parlait toujours avec sympathie du premier film néerlandais ou du premier film bolivien, ou toujours il était assez unique en son genre. Alors, comme ça, c'est ce qu'il y avait, grâce justement à son désir de recherche et sa grande générosité.
Louis Malle. Au moment où, il y a à peu près 10 ans maintenant, quand toute une nouvelle génération de cinéastes a fait irruption dans le cinéma français, non sans bruit, dans cette fausse querelle des anciens et des modernes, je me rappelle que Georges Sadoul, tout de suite, sans hésiter, a choisi de nous comprendre et de nous faire comprendre. René Clair.
Georges Sadoul, comme moi-même, comme tous les gens qui aiment le cinéma, avons considéré, quelles que soient les générations, les époques, qu'il y a des bons films et des films moins intéressants, des auteurs qui attirent notre attention et d'autres qui n'ont pas de personnalité. Et je pense que Georges, du point de vue de l'historien qu'il était, ne pouvait pas faire autrement. Je suis absolument de son avis, c'est-à-dire que le cinéma est toujours jeunesse et ne peut être que jeunesse sans ça. S'il s'arrête d'être jeune, s'il s'arrête de chercher, il devient mort, il ne résistera pas.
Michel Cournot, à l'époque où vous étiez critique de cinéma, étiez-vous marqué par Georges Sadoul?
Je trouvais que c'était vraiment le seul critique de cinéma qui faisait les choses sérieusement, c'est-à-dire qui concevait la critique de cinéma, non pas comme un moyen de donner son avis sur telle ou telle chose, mais comme une action. Au lendemain de la guerre, au lendemain de la libération, quand il y avait cette sorte de guerre froide, Sadoul, pour moi, c'était le seul qui démolissait systématiquement tous les films américains, c'est-à-dire qui faisait du boycottage systématique, politique des films américains, même les meilleurs, et je trouvais ça formidable. Dès après la guerre, Sadoul m'est apparu comme un critique complet, responsable et actif.
Georges Charansol.
Ce n'est pas tout à fait exact. Il est certain que Sadoul avait des opinions politiques extrêmement fermes. Il n'a jamais caché son appartenance au Parti communiste et il avait peut-être en effet une certaine sympathie pour les films venant de l'Europe de l'Est. Mais ces sympathies étaient le plus souvent extrêmement justifiées. C'est certainement grâce à lui qu'un grand nombre de films soviétiques, tchèques, hongrois ont pu paraître sur nos écrans. C'est lui qui le premier a dit « Il n'y a pas que la France, l'Italie, et l'Amérique et l'Angleterre qui fassent des films capables de toucher un très vaste public. Il y a encore bien d'autres pays. Il y a tous ceux de l'Est européen, il y a tous ceux de l'Amérique du Sud. Et les événements actuels, les programmes de nos cinémas parisiens nous prouvent qu'une fois de plus, il avait vu juste. »
Agnès Varda.
Il faut surtout voir dans l'intérêt que Sadoul portait aux films venant de l'Est, un vrai intérêt pour les films. Sadoul voyait pratiquement tous les films qui se faisaient partout. Et dans le cas des films venant de l'Est, il a été un des premiers à voir tous les films tchécoslovaques, tous les films yougoslaves, tous les films russes, drôles ou pas drôles. Et il pressentait et il savait qu'il y aurait un renouveau formel dans le cinéma de l'Est. Et quelquefois, il a fait des bonnes critiques et il a encouragé certains jeunes cinéastes, tchécoslovaques ou polonais. Et ce qu'on ne sait pas toujours en France, c'est que les critiques de Sadoul étaient traduites en tchèque, en polonais, en russe, car les lettres françaises est pratiquement le seul journal culturel qui est traduit dans les pays de l'Est. Donc Sadoul est considéré comme un critique important et un critique influent. Et ce qu'on oublie, c'est que très souvent, les bonnes critiques de Sadoul aidaient les jeunes cinéastes à s'imposer dans leur propre pays. Donc, je suppose que quand il faisait ses critiques, il avait absolument raison de ne pas penser qu'au public parisien, mais en fait, Sadoul avait raison, il pensait aussi aux gens qui avaient fait ses films et aux conséquences que sa critique pouvait avoir pour eux. Maintenant que le cinéma tchèque, que le cinéma polonais et même que le cinéma russe sont parfaitement à la mode et que New York et Paris se gargarisent des dernières nouvelles vagues socialistes, ça semble un petit peu curieux. Mais en fait, il y a quelques années, Sadoul était vraiment le premier à regarder attentivement tous ces films, à essayer de voir justement quel serait le premier film qui donnerait le signal d'un renouveau.
Miloš Forman.
Son aide était plus importante que l'aide concrète personnelle. Son aide était l'aide générale, parce qu'il a donné des armes de défendre nos efforts dans les mains des dirigeants de cinéma tchécoslovaque qui ont voulu nous aider et qui ont utilisé ses pensées, ses théories dans les discussions avec les officieux, toujours suspicier, toujours se méfier des efforts des jeunes. Parce qu'à cette époque-là, tout ce qui a réussi, ce qui a eu le succès à l'Occident, a mis les auteurs en danger. Parce que c'était à l'époque où chaque succès à l'Occident était expliqué que c'est le succès près de public capitaliste, impérialiste, tout ça, et il faut rejeter ça. Alors dans ce moment, la voix respectée et forte d'un progressiste comme Georges Sadoul a défendu, a sauvé ou a arrêté ses attaques contre les films qui étaient faits avec toute sincérité par le cinéaste tchécoslovaque et accueilli par la critique et par le public français. Mais il faut dire une chose, que dans nos relations vers Georges Sadoul, se développer n'était pas si simple parce qu'au début, à cette époque, quand j'étais à l'école ou quand nous avons commencé nos premiers films, il était aussi un peu victime de cette époque stalinienne parce qu'il était très souvent cité par les officiaux sur lesquels nous n'avons pas eu beaucoup de confiance chez nous. Alors nous nous sommes méfiés aussi vers lui parce que nous n'avons pas encore compris que c'était les officiers qui, en surface, sont tenus un visage dur stalinien et à l'intérieur, ils sont commencés à changer, réfléchir et changer. Et là-bas, Georges Sadoul a travaillé dedans comme un microbe, des opinions plus libres, plus larges, finalement plus scientifiques de point de vue cinéma. Mais c'est ça, nous sommes compris avec la distance. Maintenant, on comprend très bien qu'il nous a aidé beaucoup et on a retrouvé la confiance totale en lui.
Agnès Varda.
Oui, on dit toujours de Sadoul que par sympathie politique, il défendait le jeune cinéma de l'Est. C'est vrai, et de même qu'il a été un des premiers à montrer, à organiser des projections des films chinois. Je me souviens Les Amours de Liu Xiangpo et Xu Penglu, je ne sais pas comment ça se dit. Bon. Mais Sadoul, d'autre part, était aussi un grand défenseur du cinéma brésilien, du cinéma mexicain, du cinéma cubain. Enfin là, on peut encore considérer que c'est socialiste. Mais je veux dire que dès qu'un jeune cinéaste essayait de s'exprimer quelque part, Sadoul voyait son film et en parlait. Je veux dire qu'il ne faut pas être partial en l'accusant de partialité.
Monsieur Enrico Fulchignoni, puisque nous venons de voir avec Miloš Forman et Agnès Varda l'intérêt que portait Georges Sadoul au cinéma international, pouvez-vous nous dire quelle était son influence dans le cadre de l'UNESCO avec vous ?
Elle était extrêmement puissante. Nous avons depuis 6 ans tenu des contacts avec les nations arabes pour étudier la forme de leur production. Et on a commencé sur un terrain qui était absolument non défriché. Et au fur et à mesure, par des enquêtes, par des recherches, par des analyses, par des conseils qu'il a donnés, il est parvenu à rassembler l'histoire avant tout de ses œuvres, qui est respectable, pas du tout comme ça digne de l'oubli qu'elle avait, ce qui a conduit à la production d'une œuvre, un volume, sur le cinéma des pays arabes, que nous avons publié en collaboration avec lui, sous sa signature, qui est une œuvre monumentale. C'est une œuvre actuellement la seule qui existe dans ce domaine. Et le deuxième domaine dans lequel il a collaboré de très près est le domaine des techniques et des formes nouvelles. C'est-à-dire tout ce qui concerne ce mouvement qui porte à l'étude de caméras plus légères, plus maniables, de magnétophones portatifs. Et il disait que cette forme de production aurait pu, pour des pays en voie de développement, représenter un contrepoids à des formes très structurées d'une industrie lourde et que ces pays-là n'auraient pu affronter sans des dangers ou des aléas graves. C'est donc dans ce double sens de la recherche et de la recherche de nouvelles formes et de l'application de ces nouvelles formes plus souples à des économies qui étaient, elles, plus souples et moins engageantes, qui nous avaient donné une contribution absolument précieuse.
Jean Renoir.
Donc c'était un homme dont les connaissances techniques étaient sans fin. Il vous surprenait toujours. Il n'en parlait pas, mais ça ne l'empêchait pas de connaître la technique fort bien. On peut aimer les choses sans le proclamer sur la place publique. C'était son cas, c'était un homme très décent, très pudique.
Et je dois vous dire qu'à la 5e table ronde des peuples arabes, où nous sommes rendus à Beyrouth, dès que la séance a commencé, un des délégués arabes, les larmes aux yeux, un Tunisien, s'est levé et a dit « Voilà, nous avons perdu un des plus grands amis que nous avions et je voudrais qu'on se lève et qu'on pense un moment en silence à son absence parce qu'elle ne sera pas facilement remplaçable. » Je crois que ce témoignage de gens qui ne parlaient pas sa langue et qui l'admiraient et qui le respectaient et le témoignage de tous les peuples de ce pays en voie de développement que reconnaissaient en Georges Sadoul, un maître et un guide.
Yvonne Babi, en dehors des gens du cinéma, Georges Sadoul avait beaucoup d'amis. Quels étaient, disons, ses meilleurs amis?
Vous savez, c'est Louis Aragon, d'abord, et avant tout, et aussi Buñuel, parce que ce sont deux amis qui sont associés à peut-être l'époque qui a le plus compté de sa vie, c'est-à-dire au moment du surréalisme, non? Quand Aragon a coupé avec le surréalisme, Georges a coupé en même temps qu'Aragon, et ils sont restés très très liés. Il était très ami d'Éluard aussi, et puis de Tristan de Tzara, et au fond il avait conservé, de la même manière qu'Aragon, si vous voulez, une tendresse et une vieille affection pour André Breton, et il avait été très affecté par sa mort, parce qu'il y avait eu rupture, mais peut-être pas rupture intérieure. Vis-à-vis d'Aragon et d'André Breton, Georges était le jeune, le cadet. Et du reste, et Aragon et André Breton, je l'ai vu dans les lettres, et pour Aragon, je l'ai entendu, appelait Georges mon petit. Parce que quand Georges est arrivé de Nancy, il était quand même un jeune provincial, si vous voulez, qui a été très vite le secrétaire de Gaston Gallimard, d'ailleurs. Mais il était le plus jeune, le cadet.
Louis Aragon. Georges, de 7 ans ton aîné, je t'ai vu devenir un homme. Tu étais entré dans l'orbite du surréalisme où je vivais, très vite. Entre tous mes amis, tu t'es fait le plus proche, celui des mauvaises heures, et Dieu sait qu'elles n'ont pas manqué. Les mêmes résolutions nous ont jetés dans cette voie que ni toi, ni moi, n'avons jamais quittée par la suite. Alain René, est-ce que le surréalisme a rapproché le jeune cinéaste de 40 ans que vous êtes de Georges Sadoul?
Je crois que ça a été, comme pour beaucoup de gens d'ailleurs de ma génération, le grand choc de notre 16e année en somme.
Est-ce que l'amour que vous portez aux bandes dessinées, l'amour et l'intérêt que vous portez aux bandes dessinées, vous semble être une conséquence de ce choc qu'aurait provoqué le surréalisme? Et est-ce que cela vous aurait rapproché de Sadoul?
Nous avions en effet des discussions amicales là-dessus, et je crois que on s'entendait bien sur ce sujet aussi. Les bandes dessinées font partie très naturellement justement de tout cet attirail de l'inconscient auquel s'intéressait le surréalisme.
Est-ce que Georges Sadoul lisait des bandes dessinées?
Non, il avait des souvenirs assez précis des bandes dessinées d'avant-guerre, mais je ne pense pas qu'il en ait continué la lecture de nos jours.
Vous n'avez pas essayé de le ramener à la bande dessinée?
Je n'aurais pas eu l'occasion.
Bien que vous n'ayez pas connu l'époque surréaliste, Yvonne Babi, est-ce que vous pourriez nous dire comment vivait Georges Sadoul surréaliste?
Georges a habité dans un appartement de la rue du Château, qui est devenu célèbre parce que c'était un appartement où se rencontraient, se retrouvaient beaucoup de surréalistes, qui avait ceci de particulier que la porte était toujours ouverte et la clé était toujours dans un endroit où on pouvait la trouver, et que les clochards même venaient dormir dans le vestibule où il y avait des sortes de lits de camp ou de sacs de couchage qui étaient aménagés pour eux. Et c'est dans cet appartement que Elsa Triolet et Louis Aragon ont vécu ensemble.
Elsa Triolet. C'était un lieu particulier et excentrique. Nous occupions la pièce qui était tapissée d'un papier sur lequel se répétaient comme des arabesques ces mots « Celui qui aime écrit sur les murs ». Celui qui aime écrit sur les murs. Celui qui aime écrit sur les murs. Celui qui aime. René Clair, comme un certain nombre de personnalités du cinéma, vous avez entretenu avec Georges Sadoul une correspondance assez large.
Pas aussi large que je le voudrais, mais enfin nous avons correspondu à différentes occasions. Oh, ce qui m'a le plus marqué, c'est, je crois, une lettre que j'ai reçue de lui au lendemain de la première d'un film qui s'appelle La beauté du diable. Je suis un peu gêné de lire ces paragraphes moi-même parce que, véritablement, c'est la voix de Georges Sadoul qui parle et d'une manière si flatteuse que ce ne serait pas à moi de prendre sa voix. Cher René Clair, je n'ai cessé depuis ce matin où nous sommes partis pour Londres, ma femme et moi, de penser à votre Faust, si noble et si riche. Je ne résiste pas au plaisir de vous écrire pour vous remercier de la joie que vous m'avez donnée. Depuis que vous aviez quitté la France en 1934, notre cinéma avait presque toujours, et Renoir mis à part, montrer l'homme accablé par le destin. Nous crevions de Pépé le Moko, décidés à se suicider pour ne pas passer au-delà des grilles. Oui, il y avait trop de gens qui croyaient que le grand art, c'est de rendre les spectateurs malheureux. Votre beauté du diable prend le destin à la gorge et lui tord le cou, enfin. L'écriture de Georges Sadoul était ronde et douce comme lui. Est-ce enfantin? Je n'en suis pas certain. C'est l'écriture d'un homme réfléchi, mais qui a gardé la fraîcheur de la jeunesse.
Georges Charansol, est-ce que Sadoul était un homme que l'on tutoyait facilement?
Personnellement, je ne le tutoyais pas, mais il y avait beaucoup de camarades qui le tutoyaient, car il se montrait toujours extrêmement amical, extrêmement cordial, et en particulier, il était très aimé de ses élèves de l'IDEC, où il professait, comme vous le savez, le cours d'histoire du cinéma, et il avait avec eux les relations les plus cordiales, et pas du tout des relations de professeur à élève.
Et pourtant, vous, Yvonne Babi, qui êtes presque sa fille, vous ne le tutoyez pas.
Ah, oui, justement, comme il était très pudique et qu'il parlait très peu, en réalité, vous savez, moi, je l'ai toujours vouvoyé. Pourtant, je suis vraiment tout à fait proche de lui et comme sa fille. Mais au fond, quand il m'avait connue bébé, puis il m'a vue enfant, puis il m'a retrouvée un peu adolescente ou pré-adolescente, et alors... une sorte de timidité ou de pudeur, et aussi peut-être pour, je sais pas, pour me donner une sorte d'importance. Non, il m'a vouvoyé, je l'ai vouvoyé, au fond, on s'est vouvoyé toute la vie, et peut-être que ça donnait un ton un peu particulier à nos rapports, je veux dire. Peut-être de respect, mais très affectueux, que j'avais pour lui. Parce que c'était quand même quelqu'un de très secret, hein, et avec qui il était assez impossible d'être familier.
Georges Sadoul disait souvent en boutade que c'était en Lorraine qu'était née sa vocation de cinéaste et d'homme de cinéma.
Plus tard, on l'étape que vers 1910 ou 1911, tout petit garçon, suçant un bâton de réglisse, je me vois encore, j'ai assisté pour la première fois dans une baraque foraine à une représentation de cinéma. Et je me rappelle très bien un des films qu'on y donnait, que j'ai identifié par la suite, qui était Les locataires d'à côté, d'Émile Cole, le créateur du dessin animé Comar à travers le monde. Alors, c'est peut-être cette impression d'enfant qui m'a orienté vers le cinéma. J'en sais rien. Non, moi, le lien pour moi entre le cinéma et Raoul Étape, c'est que je vais à Raoul Étape pour écrire mes livres. Pour écrire l'histoire du cinéma, ça me donne beaucoup de mal. J'ai besoin d'une énorme documentation, j'ai besoin du calme. Et je vais me replier là, dans mes forêts. Et pendant 2, 3, 4 mois, je m'y enferme et j'écris. Toute mon histoire du cinéma a été écrite à Raoul Étape.
Jean-Luc Godard, est-ce que l'historien Georges Sadoul vous a influencé?
Je ne sais pas, aidé certainement, puisque c'était la seule qui existait.
Alain René.
Je crois que Georges Sadoul a influencé la carrière de tous les cinéastes. Enfin, je veux dire qu'il est le seul historien que nous ayons en France à avoir vraiment poussé à fond l'étude de l'histoire du cinéma, en commençant vraiment par le premier morceau de pellicule impressionné jusqu'à nos jours, quoi. Tous ces livres sont des outils de référence auxquels on est obligé de se reporter, qui nous mènent forcément à nous poser un très grand nombre de questions, à la fois pour et contre. Mais je pense qu'il a laissé une trace chez tous les gens qui font du cinéma en ce moment en France.
Oui, mais cette trace sera-t-elle finalement si importante, Henri Langlois?
Ouf, elle est unique. Parce que tous les autres historiens, c'est des blagueurs, vous comprenez? La plupart des gens qui ont écrit l'histoire du cinéma, les ont écrits d'après leur mémoire, ou en se recopiant les uns les autres. Alors en général, à partir des années 20, on a recopié Louis Deluc, puis ensuite on a copié Bardèche et Brasillach, Brasillach étant, par ses jugements, le meilleur historien d'avant Sadoul. Puis ensuite, les historiens du monde entier ont copié Sadoul, ce qui fait qu'il y a même des pays où on ne traduit pas Sadoul de peur qu'on s'aperçoive que le grand historien local a recopié mot pour mot le Sadoul. Alors vous comprenez, Sadoul a fait une chose extraordinaire. Il pouvait se contenter de peu, il a voulu aller à fond. Il a donc défriché toute l'histoire du cinéma mondial d'avant 14, qui était absolument inconnue. Les contemporains n'y avaient pas prêté attention, ils n'avaient donc pas écrit, ou ils avaient écrit quelques vagues souvenirs. Il a donc défriché une zone absolument vierge du cinéma. Et par exemple, quand on voit la façon dont il a abordé la période du muet, la période la plus connue à partir de 18, n'est-ce pas ? C'était très facile d'écrire une histoire du cinéma à partir de 18, mais il n'a pas voulu l'aborder, c'était trop facile. C'est d'ailleurs la vraie raison de l'interruption de son œuvre, c'est de ce volume qui a mis 10 ans à être parachevé et qui ne l'est qu'à moitié, malheureusement. C'est parce que Georges Sadoul n'a pas voulu raconter le superficiel, il a voulu entrer dans tout, c'est-à-dire le cinéma, c'est d'accord, c'est l'art, mais c'est aussi l'industrie, c'est pas l'industrie, c'est tout le mouvement économique. Il fallait donc, avant de retracer l'histoire du cinéma français, retracer l'économie du cinéma français, l'économie du cinéma américain, l'économie du cinéma allemand. Vous voyez ce que je veux dire? Il avait donc, c'est ça qui a retardé de 10 ans l'apparition de son volume sur le cinéma muet. C'était un homme extraordinaire, il travaillait, c'était le seul historien dans la mesure où, quand vous voulez écrire une histoire sur les croisades, ou vous racontez n'importe quoi, ou si vous êtes un romancier, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais si vous êtes un historien, vous êtes obligé d'aller aux archives nationales, à la bibliothèque nationale, aux chartes, je ne sais pas, à l'école des chartes. Alors, Sadoul a travaillé sur documents. Il a essayé de réunir des notes, tout sur documents. C'est l'ABC. L'histoire du cinéma n'existait pas. Avant Sadoul n'existe pas encore. Seul étant Sadoul.
Oui, mais précisément, on reproche à cette histoire du cinéma un certain nombre d'erreurs.
Alors, les erreurs dont vous parlez, vous savez, vous me faites rigoler. Parce que les erreurs dont vous parlez, ça veut dire quoi? Champollion a fait des erreurs. Mais quelles erreurs? Quelques dates qui sont erronées. Parce que tout d'un coup, dans une documentation, on a manqué de documentation, ou il y a un document qui manque et on n'arrive pas à savoir la date exacte d'une œuvre. Mais qu'est-ce que ça compte, ça? De toute façon, comme disait Sadoul, même si je fais une erreur, le grand avantage de la publier, c'est qu'il y aura 10 personnes qui viendront me dire « Vous avez fait une erreur, ça permet de corriger. »
Jean-Luc Godard.
Oui, bien sûr, on comporte même sûrement énormément. Mais d'abord, si on s'aperçoit que c'est des erreurs, c'est pas grave puisqu'on est capable de les corriger. Donc on détient déjà un peu une vérité. Mais surtout, justement, elle forçait à mieux s'informer. Il parlait de tas de choses qu'on n'aurait pas été chercher soi-même. Et qui était bon, c'était une sorte de petite cinémathèque portative et vivante, et qui remettait du reste, qui l'approfondissait chaque jour.
Jacques Daniel Valcroz, pour Langlois, il faudra un jour débaptiser l'avenue de Messine ou la rue d'Ulm. Pour Sadoul, ce sera plus simple. Comme on dit un Littré ou un Larousse, on dira un Sadoul, un petit Sadoul, un Sadoul illustré. Yvonne Babi.
Il m'écrivait très peu de temps avant sa mort. Je suis allée à la maisonnette, parce que vous savez, il avait une maisonnette près de Rambouillet. Poussé mon rocher de Sisyphe, entre parenthèses, l'art muet. Et il avait commencé cet énorme volume, ce trou de l'histoire générale du cinéma, qui devait avoir des milliers de pages, pour lequel il a des milliers de notes, mais qui reste évidemment inachevé, et même très peu commencé. Alors on va voir ce qu'on peut faire avec toutes les notes. Parce que, par exemple, quand il est allé en URSS, il a vu absolument tous les films muets de la cinémathèque de Moscou, ce qui est énorme.
Vous comprenez, comme historien, pour bien vous expliquer pourquoi c'est le premier et le seul historien actuel, c'est comme Dieu, il a créé le sol. Son histoire, c'est le sol. Quand elle paraîtra, quand tout ce qu'il a réuni, qu'il a écrit, parce que je pense qu'il faudra achever son histoire, en ce sens qu'il faudra la publier, publier tout ce qui a été écrit, publier ensuite toutes ses notations. Lorsque tout ceci paraîtra, eh bien, à ce moment-là, on aura, si vous voulez, un sol, et tous les historiens du futur seront obligés de se référer à Georges Sadoul. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il a fait.
C'est prodigieux, enfin. Je vous dis, l'histoire qui reste à écrire, c'est l'histoire du jugement sur les œuvres. Ça, c'est une autre histoire, mais pour ça, il fallait que la Cinémathèque achève son travail, et ce travail est loin d'être achevé encore. Mais enfin, un jour, on pourra projeter l'histoire du cinéma sur l'écran par les œuvres. En ce moment-là, on pourrait écrire une autre histoire du cinéma d'après le jugement sur les œuvres, en voyant les œuvres. Mais cette histoire, on n'aurait jamais pu l'écrire, et on ne pourra jamais l'écrire, sans se référer d'abord au travail de base de Sadoul.
Vers la fin de sa vie, Georges Sadoul, le Lorrain Georges Sadoul, a quitté la Lorraine et est venu s'installer dans la région parisienne, à Dreux-sur-Drouette.
Il aimait beaucoup cette petite maison qu'il a achetée pour naturellement ma mère, mais aussi pour mon petit garçon qui a 3 ans et avec qui il avait ses rapports dont je vous parlais tout à l'heure, non ? Et alors, cette petite maison était tout près d'une sorte de petite forêt et à côté de rochers aussi, comme on peut en trouver dans les Vosges. Et Georges avait tenu, en tout cas, à rapporter lui-même de Raon, d'une promenade enfin autour de Raon, une pierre rose des Vosges qu'il aimait beaucoup et qu'il avait fait encastrer dans la cheminée à côté des pierres du pays. Il était très manuel, très bricoleur, il avait beaucoup le sens des objets. Il a rapporté des vieilles boiseries qui étaient à vendre, je crois, à Nancy, dans une maison qui avait appartenu à sa mère. Il y avait des vieilles boiseries qu'on allait démolir, qu'il a rapportées, qu'il a décapées lui-même, et qui sont merveilleuses, enfin, qui ont l'air de sortir de chez un antiquaire. Il a rapporté aussi de Nancy une rampe en fer forgé, très belle, qu'il a arrangé avec des clous qui est encore tout à fait rouillé et pas terminé. Parce que Georges avait ceci de particulier, comme il était très bricoleur, il arrangeait les choses avec des clous, et puis après ça ne l'intéressait plus, non, l'effet était produit, et il passait à autre chose, et alors les clous restent, et c'était toujours une bagarre, parce qu'on disait, alors maintenant il faut faire venir un menuisier, et Georges disait, ben non, parce que ça tient très bien comme ça, et finalement ça a tenu, c'est vrai, ça a tenu à Raon, et puis, jusqu'à présent, ça a tenu à la maisonnette.
Michel Cournot, l'article que vous avez écrit dans le Nouvel Observateur après la mort de Georges Sadoul, vous l'avez intitulé « La place de Georges ». Pourquoi ?
La place de Georges était toujours vide quand on la voyait, c'est-à-dire avant que les lumières s'éteignent. Il était toujours retenu par des cinéastes qui voulaient en savoir plus, qui voulaient se faire aider. Parce que Sadoul, ce qu'il définit vraiment, ce n'est pas qu'il écrivait à propos du cinéma, c'est que vraiment il agissait pour qu'on fasse des films, de sorte que sa place, avant que la lumière s'éteigne, était toujours vide. Et il arrivait dans le noir pour remplir cette place. Maintenant, la place de Georges est vide, elle le sera toujours.
Le témoignage écrit d'Anne Philippe. Je le revois avec une chemise de toile bleue qui lui allait bien. Elle avait la couleur de ses yeux, les beaux yeux de Georges, d'une formidable bonté, intelligent, pétillant. Quand il riait, il plissait le nez. Louis Aragon. Mon Dieu, j'entends son rire. Je ne peux pas oublier son rire. Claude Mauriac. Je n'oublierai jamais non plus la caresse furtive et si tendre d'Aragon sur le cercueil de Georges Sadoul. C'était Un historien du cinéma, Georges Sadoul, par Henri Béard, avec la participation de Yvonne Babi, Georges Charansol, René Clair, Michel Cournot, Miloš Forman, Enrico Fulchignoni, Jean-Luc Godard, Henri Langlois, Jean Renoir, Alain Resnais, Agnès Varda. Des textes de Louis Aragon, Jacques-Daniel Valcroz, Louis Malle, Claude Mauriac, Anne Philippe, Elsa Triolet. Avec la voix de Georges Sadoul et, au piano, un ami de Georges Sadoul depuis l'époque surréaliste, Jean Viennère. C'est une mise en page Gilberte Samba.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 21 octobre 1968. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits. Thank you.